quoi le machin? Bonjour à tous. C'est toujours très impressionnant de se retrouver là devant autant de personnes. Et j'ai le cœur qui bat très fort là. Mais je pense que c'est bon signe et voilà. Et je suis très reconnaissant envers Dieu car il m'accorde sa paix et la joie de partager ça et de vivre ce moment avec vous. Voilà. Donc, j'attaque. Hein. Donc, je m'appelle Jérémy, j'ai 28 ans, j'ai grandi à Paris avec mes parents, mon frère et ma sœur. Je n'ai jamais manqué de rien, malgré ça, je n'ai pas eu une enfance heureuse. Pour moi, mon enfance ainsi que mon adolescence ont été très compliquées, notamment de par mon contexte familial. J'avais du stress lié à des attentes trop fortes sur le plan scolaire et pour moi, par exemple, en CM1, c'était déjà foutu, quoi. C'était fini. Les divisions, c'est dur. Je subissais, dans ce contexte, des violences verbales. J'étais souvent confronté à l'échec. Je me dévalorisais et je croyais fortement que je n'étais bon à rien. Je n'avais pas confiance en moi également. Et au fur et à mesure, je me suis renfermé sur moi-même et me suis isolé de plus en plus. Bref, j'ai construit mon identité sur des mensonges que j'ai cru très fortement et qui étaient imprégnés en moi durant toute cette période. Ce que la société ou la vie me proposait à côté, c'est-à-dire les soirées, aller faire la fête et même se bourrer, hein, excusez-moi, mais... ça ne m'intéressait pas non plus, même sans forcément connaître Dieu et tout ça, ça ne m'intéressait pas et je ne voyais pas l'intérêt. Et en fait, dans tout ce mélange-là, j'ai perdu rapidement goût à la vie. Dans ce contexte difficile, il y a quand même deux choses de positif qui allaient bien, c'est que je m'entendais bien avec mon frère, et je m'entends toujours bien, hein, je rassure, avec mon frère et ma sœur. Et le sport me tenait bien debout aussi parce que c'était une passion, notamment le foot, et du coup c'est deux choses qui allaient bien et qui me tenaient. En famille, on avait l'habitude d'aller à l'église. Très tôt, j'ai entendu parler de Dieu et des valeurs chrétiennes. J'ai cru en l'existence de Dieu assez rapidement, je pense, mais avec une image de Dieu erronée. Je voyais un Dieu dur et inaccessible. Un Dieu dur et inaccessible. Et non, un Dieu de pardon et d'amour. Bref, je vivais ma foi dans la culpabilité et non en comptant sur le pardon immérité de Dieu. Pourtant, Dieu m'a toujours gardé, malgré mes difficultés à l'école, familiale et sociale. Et dans tout ce mal-être, une dépression s'est progressivement installée. J'ai donc vécu dans cet état dépressif, sans le savoir. Et en fait, jusqu'à 22 ans, ou même après, tout ça, à 22 ans, je subissais toujours la vie. J'avais du mal à me projeter, la vie ne valait vraiment pas la peine d'être vécue, et voilà. Malgré tout, je continuais à croire en Dieu, mais il n'était pas prioritaire dans ma vie. C'est un peu paradoxal, mais... Donc cette même année, je décide de me positionner vis-à-vis de Dieu. Je lui dis clairement non, je ne veux pas te suivre car je me rends compte que je te déçois, je culpabilise vis-à-vis de toi et je suis prêt à assumer ce choix-là, tout en sachant, à cette époque, je me souviens très bien que je fonçais droit dans le mur et que qu'en tenant ce choix, je fonçais droit dans le mur et je tournais le dos à la seule solution que j'avais, en fait. Et bref, j'ai voulu continuer ma vie sans Dieu. Durant cette même année, donc à 22 ans, c'était en 2009, je me retrouve face à un dilemme, soit rester à Paris, soit rejoindre ma sœur à Grenoble. Je suis dans le flou le plus total, et en fait, j'ai le culot de demander à Dieu où lui veut que j'aille. Malgré le fait que je m'étais positionné et que je lui avais dit non, j'ai quand même... ce culot de demander à Dieu où il voulait m'utiliser, où il voulait que j'aille. Quoi. Et je reçois une forte conviction quelques jours plus tard, et j'ai la conviction au plus profond de moi que je dois aller à Grenoble. Donc, ok. Je quitte donc Paris pour aller à Grenoble. Je suis optimiste sur mon avenir. Je trouve rapidement un travail et un appart. Malgré le fait d'avoir dit non à Dieu, je constate que ce même Dieu continue de prendre soin de moi en ouvrant des portes. En l'occurrence, c'était là du travail et un logement. Et je ne comprends pas pourquoi il m'aide. Et timidement, de manière gênée, je l'en remercie. Je dis bon, voilà. Merci Seigneur, même si je ne connaissais pas vraiment le Seigneur à ce moment-là, je ne connaissais pas vraiment Dieu. C'est quelque chose qui a vraiment marqué ma vie et j'étais dans l'incompréhension la plus totale. En 2010, j'ai donc une situation confortable, je suis optimiste, je me dis que la galère est enfin derrière moi et que du coup, tout va bien aller parce que, j'ai la certitude que c'est le bon choix, je sais que c'est le bon choix, donc voilà. Toutefois, je reste assez isolé en 2010. Arrive janvier 2011, je me retrouve au chômage et cette année va être la plus compliquée de toute ma vie. Ma dépression s'accentue fortement, je vis dans le noir, je ne sors plus, je vois très peu de monde. Je fuis la réalité et me renferme derrière les jeux vidéo. Je ne pense qu'à une chose, c'est de fermer les yeux et de m'endormir. Et je pense de plus en plus au suicide. Et mon médecin traitant met quand même en place un traitement et je suis suivi pendant cette période. Mais j'arrivais même pas à aller à ma boîte aux lettres. J'habitais au rez-de-chaussée. C'était impossible pour moi. Je sortais plus de mon lit. C'était assez compliqué, ouais. Mais bon. Et en fait, je commence à en vouloir à Dieu. Et je ne comprends pas pourquoi il m'a fait venir à Grenoble. Ce calvaire dure pendant un an. Je suis finalement hospitalisé durant un mois et demi. Mon état se stabilise. Mon traitement est efficace et je reprends goût à la vie. À ma sortie d'hôpital, Dieu répond à mon incompréhension. Je comprends pourquoi je suis à Grenoble. Dieu m'a conduit à Grenoble pour me guérir. Et sur ce point-là, je m'arrête juste parce que, en fait, pour moi, ça a été quelque chose de très fort, et pas seulement émotionnellement, mais c'est que j'ai vraiment compris, Dieu m'a montré à ce moment-là dans sa volonté que tout mon optimisme, que tout va aller bien, etc., lui, il m'a fait venir pour me guérir, et en fait, j'ai trouvé ça merveilleux, vraiment, j'ai trouvé ça merveilleux. L'année suivante, je croyais que ce qui me rendait intéressant aux yeux des autres était ma dépression. Je croyais que sans cette identité-là, je n'étais rien. Fin 2013, j'ai ressenti, donc 2 ans plus tard, j'ai ressenti l'envie de découvrir Dieu en oubliant tout ce que je savais de lui. Pour cela, je passais du temps avec mes amis chrétiens autour de la Bible. Un soir, je me retrouve chez un ami et il me dit « Qu'est-ce qui s'empêche de te convertir, de donner ta vie à Dieu ?» Je lui réponds « La peur de l'échec, que ce ne soit pas une vraie conversion. » Et de perdre aussi cette identité, parce que sans cette identité qui était la dépression, la maladie, j'étais vraiment rien, quoi. Ce soir-là, il me pose donc ces deux questions-là. Qu'est-ce qui empêche de donner ta vie à Dieu ? Je lui réponds donc ce que je viens d'évoquer. Et en fait, je me souviens très bien parce qu'en fait, il pose une feuille de papier devant moi avec deux colonnes, je crois, et je ne crois pas. Il commence à me poser plusieurs questions. Moi, dans mon esprit d'ouverture, je joue le jeu et je ne triche pas. Je ne triche pas avec Dieu. J'ai toujours voulu être réglo avec Dieu parce que ça ne sert à rien, en fait. Il sait tout. Ça paraît évident, mais en fait, voilà. Il commence donc à me poser plusieurs questions, dont notamment, est-ce que je crois en Dieu ? Je me souviens, c'est la première. Je dis oui, donc je mets dans le cas, je crois oui. Est-ce que je crois que Jésus est mort pour mes péchés ? Oui. Je reconnais mon état de pécheur ? Oui. C'est des questions qui sont ressorties, mais il y en avait pas mal, je ne me souviens plus exactement. Et en fait, plus les questions avançaient, je me souviens, plus mon stylo, je posais toujours mon stylo avant la question sur la croix, je ne crois pas. Comme ça, tu vois, je ne peux pas me convertir. Et en fait, plus les questions avançaient, et plus j'écrivais que je crois. Et en fait, je me souviens, j'avais peur, parce que je sentais que je m'approchais de la conversion, et voilà, j'avais peur de cet échec et tout ça, que ce ne soit pas une conversion authentique, notamment. À la fin, il me demande de lire la feuille, je lis la feuille, et là, je reconnais devant lui que je crois en tout ce qui a été évoqué avant. Et en fait, je commence à pleurer. Et bref, je suis converti, j'y crois pas, j'ai toujours eu des échecs, même la conversion pour moi c'était impossible. Et pourtant là, je suis converti, quoi, je me dis. La soirée s'est enchaînée par une soirée louange et prière ici même dans ces locaux, dans la foulée, ça s'est vraiment vite enchaîné. Et en fait, sur le chemin, je pleurais, etc., avec le frangin, l'ami qui était avec moi à ce moment-là. Et en fait, je suis, je pense, un peu déçu de la conversion, et je me dis, mais en fait, c'est tout. J'arrive à cette réunion de cette soirée, louange et prière, et je suis autour de la table, et là, par contre, je suis vraiment, vraiment pas bien. Mon cœur est tout sombre, tout noir. Je ne comprends pas, je me suis converti, pourquoi je ressens ça? Du coup, j'appelle cet ami pour lui dire, écoute, je me sens pas bien du tout. Il appelle un autre frangin, et en fait, on s'isole dans cette pièce qui est là pour prier. En fait, c'est bizarre, parce que eux, ils priaient, ils étaient en larmes, ils sont appuyés sur un texte, je ne sais plus lequel, que Dieu vraiment prenne la place, etc. Et moi, j'étais impuissant, en fait. J'étais complètement impuissant et impossible de m'exprimer, de réagir. Et en fait, le miracle qui s'est produit, c'est que plus ils priaient pour moi j'étais vraiment mais HS comme ça, et plus ils priaient pour moi, et plus mon état de cœur, je caricature, mais en fait, c'est vraiment ça, mon cœur complètement noir, sombre, tenu par par le diable à ce moment-là, je sais pas, mais je pense. Et plus il priait, et plus Jésus prenait la place, en fait, et à l'intérieur, ça poussait à chaque prière comme ça, et je voyais la paix et le blanc, quoi, prendre la place comme ça, jusqu'à un moment que ce soit balayé. Et là, à ce moment-là, miracle, une paix profonde s'installe en moi, une paix que j'ai jamais ressentie, que je ne connaissais pas. Et Dieu me dit clairement que je lui appartiens. Et oui. En fait, j'ai la certitude, la conviction, et ça, personne et rien même à ce moment-là pouvait me l'enlever, c'était fini, que j'étais converti, que j'appartenais à Dieu, que Dieu a pris la place dans mon cœur. Et la différence entre peut-être où j'ai toujours cru en Dieu, c'est vrai, mais là, cette fois, je suis engagé avec lui et j'appartiens à Dieu. Et voilà ma conversion, comment elle s'est passée. Et depuis ma conversion, j'ai appris à connaître Dieu. Cette dernière année, Dieu m'a délivré de beaucoup de choses, pas plus tard que décembre 2015. Il m'a délivré de la maladie de cette dépression, donc. Il m'a délivré de la culpabilité que je portais vis-à-vis de lui, de mes parents, peut-être aussi dans mon contexte familial. Le fait qu'avec lui, j'étais nul et tout ça, que je ne pouvais pas l'atteindre, que je ne pouvais jamais. Même ça, c'était l'échec pour moi, c'était impossible. Il m'a délivré de cette culpabilité-là et... Et j'apprends à passer du temps avec lui par la prière, la lecture de la Bible. Et en lui, j'ai une nouvelle identité basée sur la vérité et non les mensonges. Et merci Seigneur, parce que là, je parle d'une délivrance de délivrance. Je serais mort, là, je serais vraiment mort à ce moment-là, je vous assure, je pense. Et Dieu me montre dans sa nouvelle identité qu'il m'aime, qu'il veut et peut faire de grandes choses avec moi. En lui, j'ai de l'espérance sur cette terre. Je peux parler librement à Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je peux lui parler librement. Que mon Dieu, il est accessible. Et que quel que soit mon état d'humeur, mes émotions, ma rébellion, je peux quand même lui adresser sa parole. C'est merveilleux. Et c'est contraire à tout schéma qu'on peut avoir dans nos têtes terriennes. Et je peux aussi affirmer que je suis heureux dans ma vie, même si tout n'est pas rose. J'ai aussi mes mauvais jours, etc. Je suis pas devenu un bisounours, quoi, mais j'ai comme tout le monde mes mauvais jours. Et la différence, c'est que désormais, j'ai rencontré le Seigneur et qu'il me promet qu'il sera toujours avec moi. Voilà. Merci Seigneur, gloire à son nom, vraiment. Et du coup, je tiens à, quand même à remercier des personnes, différentes personnes. Déjà, je remercie l'Assemblée, car je sais que beaucoup de gens ont prié pour moi et je me suis senti soutenu, encouragé. Encouragé et soutenu durant toute cette semaine avec de nombreux messages. Et merci parce que Dieu a aussi utilisé l'Assemblée, car le combat spirituel, il est là, et le combat, il est là, et merci pour ces personnes qui se sont vraiment mobilisées. Je remercie également Rolly. Il est où mon Rolly ? Aïe ! Je remercie Rolly pour la prépa baptême. Tout s'est bien déroulé, on a passé des bons moments de partage et tout ça, et merci pour ton implication et ton dévouement, mon Rolly. Voilà. Et je remercie aussi mon père qui est là. Mon père qui est venu de loin aussi pour assister à ce baptême. Et merci papa, parce que en 2011, moi j'oublie pas que tu as été là et que tu m'as soutenu dans ma maladie, papa. Et en fait, tu m'as soutenu à travers des lettres, et ces lettres, je les ai relues il n'y a pas si longtemps, j'en pleurais. Et pourtant, je suis délivré, papa, et c'est du passé, on avance, moi je m'en fous de tout ça, mais il y a des conséquences, et c'est magnifique, parce que ces lettres, je les ai encore, et je les ai gardées toute ma vie, et en 2011, tu étais là, quoi. Le dosage. Je remercie ma sœur aussi, Marion, qui est dans le mal, là, qui a été là pour moi. Quand j'étais au plus mal aussi dans ma dépression, je te demandais pardon parce que tu as supporté. Marion, je te l'ai déjà dit, c'est au clair de ça. Mais merci parce que ma sœur et mon beau-frère aussi ont été là pour moi dans cette année très difficile. Et m'ont supporté. Ma mère qui est présente ce matin aussi. Elle est où ? Elle est là. Merci maman parce que tu es présente ce matin et c'est magnifique. Je te dis juste un simple merci. Tu sais tout ce qu'il y a derrière tout ça, maman. Et ça me touche que vous soyez tous là ce matin. Merci aussi à mon frère Paul, qui est... en fait, je t'aime de tout mon cœur, tu le sais, mais je te le dis publiquement et je te l'ai déjà dit, même si dans la famille, on est un peu dur à ce niveau-là, mais... Sache que c'est du fond du cœur et je suis trop content que tu sois comme tu es, tu me fais trop marrer de ça. Et t'es un mec bien, Paul. Et... Même si je te trouve un peu naze au foot, mais... Ça, c'est ma régalade, hein. Et merci également à Yves qui est au fond. Yves, c'est pareil, tu t'en rends peut-être pas compte, peut-être que ça n'a pas un impact ou quoi, mais sache que tu m'as soutenu et dans mon mal-être, dans ma dépression, et tu étais là, je sais que tu es une personne qui était là, et sache, Yves, que mais Dieu, il t'a utilisé. Il t'a utilisé à ces moments-là, donc c'est merveilleux, et je tenais à te faire une petite dédicace. Et j'en pense vraiment, on en a déjà discuté une fois, je me souviens, avant que tu partes au Népal, et sache que c'est gravé à jamais en moi, quoi. Y a qui ? Ouais, hashtag Rucoli, hein. Il est où, Raph ? Il est parti. Ouais.
Si, il est là ?
Ah ! C'est les enfants d'habitude. Hein. Tous les gars de Sport et Foi qui sont là aussi ce matin, un grand merci à vous. Ils se reconnaîtront et sachez, ça me touche vraiment beaucoup que vous soyez ce matin, les gars, et qu'on puisse partager et vivre ces choses-là. C'est pas seulement l'entraînement et tout ça. Donc, merci pour ce lien qui nous unit. Merci à Dieu. Et merci juste de votre présence. Merci aussi à Fred, la famille Gétin qui est là aussi. Ça me touche, vous savez, comme je vous porte dans mon cœur. Merci à Fred qui est là aussi. Belle surprise. Les Liboutons, qui sont là. Merci, et j'en oublie d'autres, désolé, mais ouais. Et toutes les personnes qui m'entouraient, elles se reconnaîtront aussi, que je peux oublier. Et merci à Lara aussi, qui est là ce week-end. Merci à toi, tu es venu pour ce week-end, pour ce baptême. Et voilà, ça me touche aussi. Une amie d'enfance. Et ça me touche que ce soit tout simplement Lara. Et puis voilà. Ouais, j'en fais trop là. Et puis vraiment, gloire à Dieu. On a un Dieu qui touche, qui transforme des cœurs et on vit des miracles à l'intérieur de nos cœurs. Et voilà. C'est bon. J'aurais donné le message, mais là. Vraiment, gloire à Dieu, n'oublions pas que nous sommes simplement ses instruments et qu'il peut faire et veut faire de grandes choses avec nous. Croyons en ses vérités, non sur ces mensonges-là qui nous défoncent. Voilà, merci à tous.